de l'amour.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fente. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant.
Tu ne peux plus agir, c'est cela la médecine.
seule loi. Faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Eh bien, on va poursuivre aujourd'hui avec notre thématique psychanalyse et politique ou militantisme.
Oui. Et politique, on peut dire, oui, plus généralement.
Et avec un article de Sexpol, une revue parue dans les années 70.
Oui, voilà, et Sexpol est un terme inventé par Wilhelm Reich, puisque, en effet, il y a beaucoup de. La plupart des psychanalystes n'ont même pas la prétention d'avoir le moindre retentissement sur la société et sur la politique. Mais il y a des gens qui se réclament de quelque chose qui allierait les deux, dont principalement Reich, mais on a aussi attaqué Marcus, par exemple. Et il y en a d'autres comme ça qui sont un peu dans cet état d'esprit, qu'on pourrait partir de la psychanalyse pour changer le monde, que c'est pas suffisant de se changer soi-même. Déjà, on n'est pas complètement convaincu que ça les aide à changer eux-mêmes, ni qu'ils soient un modèle de changement. Parce que quand même, je veux dire, ils sont leur propre tête de gondole, quand même. Enfin, je veux dire, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais quand tu prétends avoir un truc pour se sentir mieux, aller mieux, et à partir de là, pouvoir dénoncer la névrose, en particulier des militants, puisque c'est ce qu'ils font tout le temps, eh bien, c'est que toi-même, tu serais un modèle de comportement sain, normal. On a parlé aussi du docteur Janoff et de comment il voyait l'idée de normalité, parce qu'il y a un peu de cette idée. Et il y a un point de vue sur les militants qui me paraît quand même vide, quoi. Mais enfin, en tout cas, on sent que c'est quand même carrément l'ennemi. Et donc, le militant serait un modèle de névrose, tandis que eux seraient un modèle qu'il faudrait suivre pour, d'ailleurs, souvent ce qu'ils prétendent dans tout ce qu'on a pu lire, c'est que il y a une phrase qu'on nous balance souvent, d'ailleurs, quand on est militant. Déjà, il faut préciser qu'il y a très très peu, enfin, le militantisme, vraiment, enfin, je veux dire que des gens se sentent concernés par l'état du monde, oui, mais d'être un activiste, c'est pas courant, en réalité. Donc tout ce qui est un petit peu bizarre, marginal, pas courant, on a tendance à te voir des motivations un peu tordues, parce que comme les gens comprennent pas pourquoi tu fais ça, c'est sûrement que ça doit être un truc de compensation, ou que, enfin voilà, que, et donc eux ils le disent carrément, c'est parce que t'es mal baisé. Ils disent carrément ça, quoi. Donc déjà t'as ce côté quand même un peu lapidaire, on va dire, et puis eux-mêmes, bien entendu, seraient non seulement des modèles de comportement en général, de social, et puis qu'ils auraient une vision vachement claire de ce qui est essentiel dans la vie et de ce qui ne l'est pas, on va dire. Et puis, on va dire aussi que par rapport à la sexualité, j'ai trouvé que parmi tous ces témoignages, tous ces trucs, même comme Marcus ou Reich, ou les beaucoup de Reichiens comme ça, bah Dadoun, qui était celui qui a fait un article dans Le Monde Libertaire il n'y a pas si longtemps que ça, et qui prétendait que Diallo, la victime de DSK, était pas du tout une victime, et d'abord qu'est-ce qu'elle faisait dans sa chambre, et puis qui faisait sa psychanalyse aussi en disant que si elle était femme de ménage alors que lui était d'un meilleur niveau social, on va dire, c'était parce que lui il avait du tempérament, puis elle c'était pas une chaudasse, t'as qu'à voir, un gros dégueulasse lui saute dessus pendant qu'elle fait le ménage, elle est pas ravie, si c'est pas une preuve qu'il y a un souci. Et ça pouvait être que pour ça qu'elle n'avait pas pu grimper dans l'échelle sociale. Donc c'est pour dire qu'il y a un os au point de vue grille d'analyse, on va dire, entre des gens qui ont comme grille d'analyse effectivement ce que c'est que la situation sociale des gens et des gens qui pensent que ça tient qu'à leur tempérament, on va dire, tu vois. Et c'est très étrange parce que là, même l'article que tu vas lire, il y a quelque chose d'assez bizarre. J'ai vu un autre article d'ailleurs dans le même journal où il y en avait qui faisaient, parce que les Reichiens, surtout à l'époque, bien qu'il y ait encore des gens qui font des thérapies reichiennes et des sessions de ce genre-là, c'est quelque chose d'assez ambigu. En même temps, on a l'impression que, bon, évidemment, ça tourne autour du sexe, bien sûr, et en même temps, non. Donc, par exemple, il y a un mec qui leur écrit à des gens qui ont fait en Espagne, pendant l'Espagne fasciste, où c'est un truc où, normalement, les gens qui allaient en Espagne et qui étaient un tant soit peu concernés par la politique, se disaient que, au moins, si tu vas en Espagne, tu dois avoir une critique quand tu y es, quelque chose qui ressort de ça, quoi. Et donc, il faut qu'il s'explique un peu. Mais le mec qui leur écrit est allé à une de leurs... c'est un groupe qui s'appelait Tribu. Et celui dont tu vas lire l'interview fait aussi partie de ce groupe. D'accord. Qui donc se targuait d'être à la fois dans le domaine du développement personnel, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, et de la politique. Et qu'il a dû payer très très cher, c'était 250 francs pour l'époque, mais enfin, il semble que c'est quand même franchement pas pour toutes les bourses, ni logé ni nourri, il faut aller en Espagne. Tu vois, donc je veux bien que c'est pour les masses, comme ils le disent, ils parlent du terme, le terme masse, qui est un terme que je trouve très très choquant, personnellement, pour parler des gens, les masses, tu sais, toi t'es au-dessus et tout, mais que donc c'était pas tellement pour tout le monde, mais par ailleurs, il était déçu parce que dans le descriptif, visiblement, il s'attendait à ce que... Enfin, il y allait avoir des garçons, des filles, et ça consistait à se faire des attouchements pendant des heures. Donc, lui, il voyait quand même un peu sa chance, le mec, et il a été très déçu. Il dit « Parce que personne n'a tombé le slip. » Alors, ceux qui se justifient, qui ont organisé le truc, « Ah, il s'attendait à ce que les gens tombent le slip. » Bah, ouais, tu parles. En plus, ils sont tous assez bizarres quand ils parlent de sexualité, là, les Reichiens. En particulier, mais même Marcuse et tout, ils parlent beaucoup de ça. Tu les vois tous avec un ton très, très. Enfin, qui est tout sauf sexuel, quoi, tu vois, sauf érotique, on va dire. Mais tu les vois quand même avec une impression qu'ils ont quand même le gland qui dépasse du col de la chemise, enfin, de là, et tout. Mais en même temps, le truc que t'avais passé où on entend Marcuse qui parle, c'est, je veux dire, je sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent tout d'un coup en chaleur en entendant ça, mais je crois pas. Et pourtant, tu dis que ça a l'air de les intéresser, mais c'est pas... comme je sais plus qui, ils ont l'air érotiques comme un pot de yaourt diététique, tu vois, c'est vraiment pas... Et en même temps, c'est une obsession, je dirais, comme tout le monde, mais en même temps, il y a une espèce de distance qui se veut un télo, c'est extrêmement bizarre. Et il y en a un qui fait une thérapie comme ça, s'appelait la bioénergétique, la thérapie inventée par Reich, en particulier.
La bioénergie.
Bioénergie, bioénergie, oui, t'as raison. Il y a même une machine. Je sais pas ce que c'était que cette machine. J'ai jamais vu un descriptif. Mais je suis intriguée, je dois dire. Rentre là-dedans. Ah
oui, oui,
tu vas voir, tu vas sortir, tu seras mieux coiffé. Enfin,
la machine à orgone.
Je précise que Laurent m'a dit qu'on vend toujours des bouquins de Reich à la librairie. Il y a des gens que ça intéresse.
Ah oui, oui, oui.
C'est pas du tout, on pourrait me dire, ouais, non, c'est démodé.
Bon,
mais...
Il y a des thérapies corporelles qui sont pratiquées.
Bah, j'ai vu un mec comme ça dans Sexpol qui disait que ça consistait, par exemple, il allait faire ça, il s'apprêtait à faire ça. Pareil, le mec a encore l'air un peu de et tout, mais non, très mesuré, non, pour qui me prends-tu et en fait, ça consistait à en fait faire que le corps entier devienne érotique en caressant chaque centimètre carré du corps et tout. Mmh. Alors, dit comme ça, c'est pas faux pour tous les goûts, hein, remarque, mais bon. Je sais pas s'il y a vraiment des gens que ça allume vraiment. Enfin, me dis, puis t'as pas plus de précision. J'imagine bien la nana dire, bon, écoute, ça fait une heure que t'es sur mon coude, si tu pouvais passer à autre chose. Non, il y a quand même un côté qui fait un peu farfelu, faut le dire. Mais ils sont très très sérieux. Justement, il n'y a pas plus sérieux. Enfin, ouais. Donc
voilà, pour introduire donc. Voilà.
T'avais une brève à lire, non ?
Oui, je vais lire et on va passer ensuite à la lecture de cet article de Sexpol. Paris, la justice ordonne à la préfecture de respecter les droits des patients de l'IPPP ou I3P. C'est un petit article de Quentin Haroche du 12 août 2026 et c'est extrait du Journal international de médecine. À la suite d'une alerte de la CGLPL, le Conseil d'État a ordonné à la préfecture de police de Paris de prendre diverses mesures pour assurer les droits et la dignité des patients pris en charge à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. Au cœur de Paris, dans le 14e arrondissement, il existe un lieu à mi-chemin entre l'établissement psychiatrique et le local de garde à vue, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, connue sous le nom d'IPPP ou I3P. Créé en 1872, cet établissement permet d'hospitaliser sans leur consentement les individus dangereux interpellés par les forces de l'ordre et qui semblent présenter un trouble mental. Leur admission à l'I3P permet qu'ils soient examinés par un psychiatre afin, selon le diagnostic établi, de les orienter vers soit une hospitalisation sous contrainte, soit un placement en garde à vue, soit une remise en liberté. Cet établissement constitue en quelque sorte un angle mort de la forte progression des droits des malades psychiatriques hospitalisés sans consentement ces dernières années qui peuvent désormais contester devant un juge leur hospitalisation, leur isolement et leur contention. Alors là, je mets quand même un bémol à cette phrase, une petite intervention. La forte progression des droits des malades psychiatriques hospitalisés sans consentement, je n'en suis pas sûr. Il y a quand même... Quand on évoque le juge pendant l'hospitalisation, on voit que le patient n'a pas beaucoup de pouvoir pour changer sa situation devant un juge qui va bien souvent faire prolonger le soin sans consentement par le diagnostic du psychiatre qui va continuer à dire mais non, cette personne ne peut pas sortir, il faut qu'elle reste. Et donc non, il n'y a pas de progression forte des droits des malades psychiatriques avec cette loi du juillet 2011, voilà, du 5 juillet 2011. L'IPP présente la particularité d'être le seul établissement de santé qui n'est pas sous l'autorité du ministère de la Santé, mais sous celle du ministère de l'Intérieur. De graves atteintes aux droits et à la dignité des patients. Une situation particulière de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qualifie de zone d'indétermination juridique qui porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté et à laquelle elle entend mettre fin. Dans un rapport publié en avril dernier, l'institution chargée notamment de protéger les droits des personnes hospitalisées sous contrainte avait relevé les nombreuses atteintes aux droits et à la dignité des détenus devenus monnaie courante à l'I3P. Enfermement au-delà des 48 heures légales, une privation de liberté arbitraire sans fondement juridique formalisé selon la contrôleur générale, mise à nu à l'entrée de l'établissement, isolement systématique, pas d'accès libre à l'eau potable, pas de sortie ni de visite autorisée, contention fréquente dans des conditions indignes, etc. 3 mois après cette alerte de la CGLPL, qui avait appelé la préfecture de Paris à garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des patients, c'est au tour de la justice administrative de s'emparer du dossier. Saisi par le syndicat des avocats de France et par la Ligue des droits de l'homme, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu le 13 juillet une première ordonnance dans laquelle il enjoint à la préfecture de Paris de prendre diverses mesures pour mettre fin à la détention arbitraire des malades psychiatriques à l'I3P au-delà de 48 heures et aux méthodes d'isolement et de contention attentatoires à leur dignité.
Le 4 août dernier, le Conseil d'État, saisi en appel, a confirmé en partie la décision du tribunal administratif de Paris. La plus haute juridiction administrative enjoint ainsi au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour assurer une orientation aussi précoce que possible des personnes placées à l'IPPP et d'élargir sans délai le périmètre des établissements en Île-de-France, voire au-delà, sollicités par l'I3P pour accueillir celles des personnes qui y sont accueillies, dont l'état de santé justifie un placement en soins psychiatriques sans consentement. Fin de citation. Afin donc de respecter le délai de 48 heures au-delà duquel les patients de l'I3P doivent être réorientés, si nécessaire, vers un établissement psychiatrique. Les patients de l'I3P doivent être informés de leurs droits. Le Conseil d'État enjoint également au préfet de police de compléter l'information apportée aux personnes placées à l'I3P s'agissant des modalités pratiques selon lesquelles elles peuvent exercer leur droit au recours et de rechercher les moyens de remédier aux difficultés constatées pour obtenir le concours d'avocats de permanence. Il confirme également les injonctions du tribunal administratif de Paris tenant à l'individualisation des décisions d'isolement et de contention, qui doivent désormais être motivés par un risque de dommage imminent et être notifiés à un juge, à la limitation des pratiques de rétention des effets personnels et surtout à l'interdiction faite aux policiers et surveillants de participer ou d'assister à des actes de soins. En revanche, le Conseil d'État estime que le juge n'avait pas le pouvoir d'ordonner au préfet de police d'interdire le déshabillage des patients à leur entrée à l'I3P, ni de demander que soit assuré un accès libre à l'eau potable et à un espace extérieur. Bien que le Conseil d'État se soit donc montré, au final, moins exigeant que le tribunal administratif de Paris, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté s'est réjouie dans un communiqué publié ce lundi que la justice administrative ait confirmé des atteintes graves aux droits fondamentaux des patients pris en charge à l'I3P et enjoint au préfet de police de prendre des mesures pour y remédier. Le syndicat des avocats de France qualifie pour sa part la décision du Conseil d'État de victoire qui va permettre de rendre effectifs les droits des personnes retenues à l'I3P. Quant à la préfecture de Paris, elle assure avoir commencé à prendre les mesures nécessaires pour limiter à 48 heures la durée de prise en charge des patients à l'I3P. Voilà.
Voilà, bah, je ne sais pas si... parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, même par rapport à ça et par rapport au sujet général. Donc peut-être pour l'article plus précisément... Je pense que là, on peut faire quelque chose de plus général. Quand on a fait le débat la dernière fois, j'ai exprimé peut-être un petit peu crûment mon point de vue sur justement les différentes critiques qu'on pouvait avoir de tout ce qui tourne autour de psy, on va dire. Mmh. Les psychanalystes et les psychiatres, par exemple, c'est pas la même chose. Là, dans ce que tu soulèves, enfin, dans ce qui est soulevé par l'article que tu as lu, bah, on se dit évidemment... les Reichiens, on ne peut pas leur faire le reproche de... Au moins, il n'y en a aucun qui envisage de faire enfermer qui que ce soit. Tu vois ? Donc, il y en a qui sont dangereux, on va dire, et d'autres qui sont simplement... Bah, par exemple, là, les Reichiens, excuse-moi, mais c'est des charlots. Mais le seul truc, donc, pour dire les choses autrement, la seule chose qu'on peut attendre, je pense, d'un psy, le problème, c'est que ça ne relève absolument pas d'une compétence. Ça relève d'une qualité. Tu vois, par exemple, c'est vrai que quand on va te dire « tel psy, il avait une grande capacité d'écoute ». C'est un truc que je pourrais dire de toi, par exemple. D'ailleurs, tu le disais même dans une BD que les gens trouvaient que tu avais une grande capacité d'écoute. Tu te rappelles peut-être de cette BD dans un courrier mensuel où tu parlais de toi dans ces termes. Et c'est la vérité. Mais c'est pas quelque chose que tu as appris ni dans des bouquins, ni dans une fac, avec un diplôme à la clé. Et tu as énormément de psy qui n'ont aucune, mais alors aucune, capacité d'écoute. C'est une qualité. C'est comme si tu disais, eh ben oui, c'est quoi sa science, c'est d'être sympa, tu vois. C'est vrai, c'est exactement ça. Et t'avoueras que malgré tout, je vais pas leur faire malgré tout l'offense de les comparer avec les ordures qui font ça. Enfin, ce dont tu parles là, ça c'est, oui, c'est carrément des salopards. Je veux dire, tu vois, là c'est un peu farfelu, on va dire, c'est risible. Et puis, ma foi, ben, s'il y en a qui ont profité de qui, pour 250 francs de l'époque, et plus nourri et logé, ont réussi à rencontrer des gens et puis qui ont réussi à tirer leur coup du coup, tant mieux, tu vois. Donc, c'est un peu de la, d'un côté, c'est un petit peu de la foutaise. Donc, au pire des cas, on peut dire que c'est un peu de l'escroquerie. Mais après tout, on paye pour des tas de choses qui ne servent pas à grand-chose pour le plaisir. Et donc, je critique ce que je critique le plus, finalement, même par rapport à Sexpol, c'est le fait de vouloir psychanalyser les militants. Parce qu'on doit beaucoup se justifier. Si tu veux, comme quoi, ben c'est sûrement qu'on a dû avoir des problèmes avec papa, maman quand on était petit, parce que sinon pourquoi, pour quelle raison tu pourrais vouloir lutter contre les injustices sociales? Quelle autre raison, tu vois? Ça peut être que ça. Donc c'est énervant, mais je comparerais pas ça avec ce que tu viens de dire. Si tu veux, ça remet un peu les pendules à l'heure d'entendre ça. C'est les psychiatres sont des gens nuisibles, dangereux. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui... Bah, même pour avoir vécu le fait d'être, de se retrouver enfermé sans avoir compris comment, c'est un truc où me retrouver étant petite sous médicaments, ben, je veux dire, tu te dis, c'est un truc au moins qu'ils font pas. Enfin, tu vois, faut relativiser aussi. Et dans le meilleur des cas, c'est des gens sympas, bienveillants, qui peuvent t'écouter quand tu connais personne qui pourrait t'écouter, qui peuvent être de bons conseils, comme si t'as pas de, autour de toi de copains, copines, famille, connaissances qui pourraient t'écouter, quoi. Tout le monde a pas ça, donc le seul problème, c'est que t'as aucune garantie que tu vas tomber sur quelqu'un comme ça sous prétexte qu'il a un diplôme. Je connais des gens qui se disent, j'en ai connu même pas mal, qui avaient des diplômes de psy et qui s'y connaissaient drôlement, qui avaient avalé des bibliothèques entières de psy et qui à l'arrivée n'étaient pas du tout des gens ni bienveillants ni
efficaces sur la
qui même t'écoutaient, tu vois, qui vont être vachement empressés de te faire des diagnostics que tu leur as pas demandé, et quand tu dis me semble pas, te disent que t'es dans le déni. Enfin, toi par exemple, c'est vrai que te psychanalyser parce que t'es militant, t'es quand même, t'as une petite tendance à avoir envie de les envoyer chier, mais je ferai aucune comparaison avec les horreurs que peuvent commettre des psychiatres. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui. Alors, sur le militantisme, par contre, il peut y avoir les effets de la répression sur le psychisme d'un militant. Par exemple, les traumatismes, les violences policières, etc.
Ça, c'est autre chose, c'est autre chose que le fait de te retrouver avec un diagnostic psychanalytique sur tes motivations. Exactement. Comme s'il était impossible que tu puisses avoir...
Complètement.
Voilà, tu vois, bon... Donc, je sais pas si il est quelle heure. Ouais, ah, t'as bon, encore une temps. Demi-heure. Bah, disons que ça m'étonnerait que t'en viennes à bout.
D'accord.
Mais de toute manière, c'est un truc qu'on pourrait voir même en deux fois, en allant sur un autre truc de Sexpol après, parce que franchement, je trouve qu'il y a de la matière. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Attends, mais comme ça, du coup, je suis complètement perdu.
Ah bon.
Bon,
nous recherchons,
attends,
la page.
Tu vois, là-dedans, par exemple, il y a un truc, parce que Reich, on en a déjà parlé, bah, il prétendait pouvoir. Enfin, il a fait des choses, des théories autour du cancer.
Oui.
Alors, Dadoun, donc celui qui fait des diagnostics sur les femmes violées, qui certainement l'ont bien cherché, n'est-ce pas? Eh bien, dans le monde libertaire, donc il n'y a pas si longtemps, il y a, je sais plus, c'était une dizaine d'années, tu vois. Eh bien, le même te parle de Reich et de ses théories sur le cancer. Outre qu'on n'y comprend absolument rien, parce qu'il a un vocabulaire absolument incompréhensible pour le commun des mortels, mais qu'il trouve moyen de dire, c'est dans un style admirable de clarté et de précision que Reich expose ses 8 années de recherche sur le cancer. Bon, c'est bien, parce que lui-même, il est absolument incompréhensible, mais si lui, il a compris ce que voulait raconter Reich, et ce qu'il dit, c'est que Reich prétend pas guérir le cancer, mais le prévenir. Mais c'est un truc qui est quand même difficile à quantifier, le nombre de cancers que t'as prévenus. T'as vu, tu sais, c'est la blague des. Je mets des drapeaux noirs et blancs dans mon jardin, et pourquoi faire ? Eh bien, c'est pour empêcher que les rhinocéros viennent piétiner mes tulipes. Mais il n'y a pas de rhinocéros par ici. Ah, c'est ouais. Bien la preuve que ça marche. Tu vois ? Donc, encore une preuve que c'est un charlot. Mais je trouve plus le truc plus spécifique. Non, mais il y en a. Il y en a vraiment beaucoup hein, dans le truc et tout. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Il y a pour une démocratie naturelle, les Sioux de tribu. Avec effectivement ce groupe donc, qui s'appelait Tribu, explique qu'à l'époque, il y avait toutes sortes de. Ben c'est dingue ça quand même. Il y avait toutes sortes de gens qui utilisait tout ce qui était psy. Oui, c'est dans celui-là. Attends, je vais le retrouver, je suis sûre. Qui voyait les choses, qui, par exemple, disait que... Mais eux sont aussi dans cette idée. Et ça, c'est assez courant chez les gens qui pensent qu'on peut associer psychanalyse et politique. Et c'est le cas, d'ailleurs, dans l'article en question. Ils disent, je vais partir. On ne peut pas, donc, changer son environnement si on ne se change pas d'abord soi-même. Et je pars de moi et après j'irai vers les autres. Sauf que les seuls autres vers lesquels tu les vois aller, c'est des gonzesses, parce que c'est un mec. C'est la seule chose en fait que tu le vois. C'est la seule chose que tu vois faire comme dans le sens d'aller vers l'extérieur. Donc ils prétendent que ça va aller vers la politique. Mais en fait, ils y vont pas du tout.
Ça va dans le sens inverse.
Non, ça va que dans ce sens-là. Attends, alors la sexualité. Ah voilà, c'est quant à ces deux-là avec leur bio. Oui, puisque c'est donc quelqu'un qui, après être passé par Vive la Révolution, je sais pas précisément ce que c'était, mais avec un titre comme ça, je dirais Mao, trotskiste, marxiste, etc. En tout cas, c'est pas ça sent pas tellement l'anarchisme. Hein. D'accord. Mais voilà, et donc après, il a compris où était le vrai sens de la vie, et c'était d'arriver à se libérer au plus mard. Voilà. Alors, il faudrait avoir des témoignages un peu extérieurs à lui, puisque évidemment, à les entendre maintenant, c'est des vraies affaires au pieu, mais je ne sais pas ce qu'en pensent les filles en question, ça, il n'en est pas question. Mais il peut t'aider, il peut vous aider grâce à une thérapie reichienne, de la bio-énergie, c'est ça. Eh bien, il peut t'aider à devenir un super coup. Voilà. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu comme ça que c'est ce que tu peux le prendre. Oui.
Donc, le chapeau du Sexpol numéro 3 de avril 1975. Bertrand D. a 27 ans, ancien militant marginal de VLR, Vive la Révolution, issu d'un milieu bourgeois, études de sociologie. Il a découvert fortuitement, il y a quelque temps, la bioénergie, la bio, comme on dit en raccourci. Son intérêt pour cette discipline est allé croissant et il s'emploie actuellement, dans le cadre du groupe Tribu, à suivre une formation d'animateur en bioénergie. Jean-Paul Laurence, qui mène l'entretien, a 29 ans, ancien militant de divers groupes autonomes, puis autonome lui-même, ce qui n'est pas une mince prétention. Milieu petit bourgeois.
Tiens non.
Études scientifiques. Il a découvert l'ergonomie ou science de l'énergie vitale, selon Reich, dans le dégoût de la politique considérée comme pratique destructrice des êtres. Il entend vulgariser son travail de recherche en ergonomie par le canal de Sexpol et les prolonger dans des applications concrètes dont nous parlerons prochainement dans la revue. Ce débat constitue un complément à l'article que nous avions déjà publié sur Tribu.
Oui, il y a, en effet, c'est ces gens qui faisaient donc un stage en Espagne. Attends, je vais te retrouver l'endroit où c'est. Je sais que le journal est en sale état, mais... Ah ouais, t'as vu le truc au crayon. Ouais, donc, ouais.
Alors, donc, il lui pose quelques questions, dont celle-ci et les suivantes. Je suppose que l'éducation sexuelle dans ta famille avoisinait le zéro absolu. Donc là, c'est la question posée à Bertrand D, qui
s'apprête à faire des thérapies d'ergonomie,
voilà,
etc.
Voilà, Reichienne.
En fait.
L'éducation sexuelle dans ta famille avoisinait le zéro absolu. Au moins que ça. Avec répression au niveau de la masturbation. Sur le thème, tu vas devenir impuissant, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Il faut dire que c'était une famille catholique intégriste pour qui la masturbation était un péché. Mon père m'a surpris une fois en train de me masturber à 14 ans. J'ai découvert la masturbation assez tard au niveau volontaire, j'entends.
Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est que la masturbation involontaire. Enfin bon, il ne le précise pas,
ouais,
je crois.
Mais moi non plus.
Moi non plus. mais à part ça, non, mais c'était pas exprès. Non, mais à part ça, là, il faut quand même faire un commentaire. Il est évident que il y a des. Moi, je l'ai ressenti aussi comme ça. Enfin, la répression qui vient de la famille, qui vient de l'environnement social et tout que tu peux avoir. Pour la plupart des gens, hein. C'est quelque chose qu'il faut arriver à dépasser. Et il y a peut-être des gens que ça aide d'avoir recours à quelqu'un avec qui ils peuvent parler. Tu vois, je te dis, je vois pas la nécessité pour autant ni de faire des études, ni de lire des bouquins pour être capable d'écouter quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. Mais il y a aussi quelque chose, c'est bête à dire, mais on évolue naturellement. Enfin, moi, ça a été mon cas. Oui, enfin. Je veux dire, découvrir la masturbation tout à fait volontaire, excuse, ça m'a vraiment pas pris longtemps, mais je culpabilisais, si tu veux. D'ailleurs, je pensais que j'étais la seule à avoir eu une idée pareille, tu vois. Ça a été assez tard que je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Donc, déculpabiliser par rapport à une sexualité qui dans un environnement répressif, ça me paraît indispensable. Mais faut bien le dire, je pense que la plupart des gens le font sans avoir recours même à une thérapie. Enfin, je veux dire, déjà, tu sais, quand t'es dans un contexte, on n'est plus dans les années 50, globalement, même maintenant, et depuis les années 70, effectivement, le contexte était assez favorable à se déculpabiliser sur le thème de la sexualité. Peut-être même, je dirais, en te culpabilisant à l'envers, quand tu baisais pas assez, tu vois, mais ou que tu découvrais pas des pratiques sexuelles qui après tout te tentaient pas forcément, mais enfin le fait de devoir avoir recours à un professionnel de je sais pas quoi, parce que autant je pense que pour être médecin il y a pas de mystère, c'est une science, autant tout ce qui est psy. À part le fait d'avoir une capacité d'écoute, ce qui peut être donné en effet à n'importe qui et ce qui n'est pas forcément donné à un psy, je ne vois pas. Mais je pense que oui, c'est important de dépasser tout ce qui peut être la répression dans ce domaine-là. Mais je pense que dans beaucoup de cas, ça se fait avec des échanges. Moi, c'est vrai que de parler... moi, par exemple, ma mère m'avait dit « Aucun mec voudra de toi si tu n'es pas vierge au mariage ». Et quand j'ai simplement discuté avec des copines, j'ai bien vu j'ai bien vu autour de moi que c'était pas le cas, que des gens vivaient ensemble sans être mariés, que des filles qui couchaient avec plein de mecs avaient pas de mal à avoir des amoureux. Enfin bon, donc j'ai pas eu besoin d'avoir recours à un professionnel de je sais pas quelle profession exactement. Mais je pense en revanche que oui, c'est un problème de tout ce qui peut être la culpabilité lié au sexe, c'était un problème qui dénonce justement. C'est le remède qui me paraît un peu à démontrer, on va dire. Voilà.
Alors, j'ai découvert la masturbation assez tard. Par hasard ou sur les conseils des petits copains ? Par hasard, j'avais entendu l'expression se branler, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ce que c'était, je savais ce que c'était. T'es pas obligé de savoir ce que ça veut dire pour le faire, je veux dire.
Pour ma part, le combat politique a été déterminé de façon prépondérante par la répression antisexuelle que j'ai subie étant jeune, par le judéo-christianisme auquel s'ajoutait le contexte social et culturel du Midi, d'il y a 20 ans, plus proche de l'Espagne que de la Suède. Ça, c'est le questionneur qui parle, hein. C'est pas le questionné. Alors, lui, il répond « Pour moi, c'était la Bretagne, surtout pendant les vacances. Mais en réalité, ma jeunesse s'est passée un peu partout au gré des garnisons de mon père qui était colonel.
Waouh.
Mes premiers rapports sexuels ont eu lieu en vacances en Angleterre, dans des conditions assez cocasses, dans des vestiaires de tennis. il y avait demande de ma part, mais c'est elle qui a pris l'initiative. C'était une Anglaise assez belle de 18 ans, puis retour de vacances, j'ai replongé dans la famille et jusqu'à 68, il y a eu dans mes relations avec les filles dissociation entre le sexuel et l'affectif. Dans mes désirs et mes relations, je ne concevais pas consciemment la sexualité sans affectivité. Je n'avais pas de désir primaire, mais j'avais des désirs refoulés. Je sais que je les avais, mais je ne les pratiquais pas.
Bah, pour parler moins de façon moins intellectuelle, on va dire, oui, effectivement, on peut dire que, d'une manière générale, quand t'es ado, c'est, du point de vue relationnel, c'est pas encore tout à fait ça, et que tout simplement, effectivement, il y a des personnes que tu peux désirer, mais que avec qui tu ne dois pas construire une relation. Il n'y a pas de quoi en faire ni un symptôme, ni même un problème. Tu te dis, c'est courant, et un jour, peut-être, ou peut-être pas, tu rencontreras quelqu'un avec qui tu auras envie vraiment d'avoir une relation autre que sexuelle. Enfin, voilà, quoi. J'y vois pas du tout un problème quelconque qui demanderait à être résolu par la bioénergie. Voilà.
Continue. Alors, donc, désir refoulé, tout ça. Mais pour dire que tu en avais conscience, c'est que tu te souviens, par exemple, d'avoir été en érection dans le métro, dans la rue, etc. Oui, bien sûr, mais je refoulais ce désir primaire en le remplaçant par un désir secondaire qui commençait par des relations affectives pour ensuite, si cela marchait bien, avoir des relations complètes. Mais après une relation sexuelle, le côté affectif remontait seul à la surface et je n'avais plus qu'un désir, la fuite. J'avais peur que la
Attends,
relation...
Attends, excuse-moi, parce qu'il y a des trucs qui disent comme ça et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Que après avoir joué, il avait moins envie, vu qu'il venait de jouer. C'est aussi assez banal et il ne faut pas y voir un problème. C'est tout.
J'avais peur que la relation sexuelle m'entraîne je ne savais trop où. C'est dans la mesure où la relation marchait bien que j'y mettais un terme. C'est quand elle marchait mal que je m'accrochais.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est dommage.
C'est peut-être aussi une réticence à s'engager dans ce
milieu. Ouais, mais oui, bien sûr. Oui, oui, mais c'est pas. Surtout quand t'es très jeune comme ça, ben pourquoi pas. Enfin, je veux dire, après qu'il parle de ça, j'y vois pas d'inconvénient que même il se soit à l'époque posé la question pourquoi je ne peux pas m'engager dans une relation, hein, etc. Moi, oui, tu vois, je veux dire, si c'était que ça. Mais qu'est-ce que la bioénergie va pouvoir faire pour son cas? Ça, par contre, je ne sais pas.
On peut parler, là, de masochisme. C'est ça, il y avait un refus d'accepter le plaisir. C'est un produit de l'éducation judéo-chrétienne. En partie, on m'a toujours éduqué avec la malédiction de la souffrance, de la vie semée d'embûches, de la jouissance comme mot tabou. Oui, mais ce refus de ce qui marche bien pour s'accrocher opiniâtrement à ce qui marche mal est caractéristique du militantisme, il me semble.
Voilà, on y arrive. Et effectivement, ça, c'est quelque chose de récurrent. Et d'ailleurs, dans cette interview, mais pas seulement dans ce journal, mais quelque chose que j'ai souvent entendu. Mmh. Et c'était, il y avait, je crois que c'est Powell, le mec du Figaro, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien raison de l'être », où il disait qu'il fallait être maso pour s'intéresser... à la misère dans le monde, la famine, les injustices sociales. Mmh. T'as juste qu'à regarder ailleurs et ça disparaît, tu vois. Et c'est un conseil qui est d'ailleurs abondamment suivi par pas mal de bourgeois, justement. C'est beaucoup plus facile quand c'est pas toi que ça concerne ou ton environnement immédiat, faut l'avouer. Mais ça montre bien qu'en effet, on s'interroge sur les motivations de gens qui, eux, se sentiraient concernés par les injustices sociales. Pourquoi, alors que tu pourrais voir la vie, prendre la vie du bon côté, tu sais, comme dans la vie de Brian, mais là encore, c'est même eux que ça concerne, puisque c'est les crucifiés qui chantent « Il faut voir le bon côté de la vie ». Ou pourquoi pas, en exagérant, mais à peine, tu sais, l'idée qu'au milieu des camps d'extermination, il y avait des espèces de petits villages de nazis et de leurs familles qui étaient en plein milieu, et puis qui avaient leur petit « ça me suffit », au milieu de l'horreur, quoi, tu vois. Et c'est quand même un truc que t'es quand même tenté de dire, mais tu sais, c'est pas subjectif. les injustices sociales, et pas seulement d'ailleurs des trucs les plus affreux qui se passent au bout du monde, mais même ici et maintenant, l'idée de faire un boulot aliénant, que Marcuse qui avait remarqué ça, sans vouloir lui faire de peine, les ouvriers n'ont pas attendu après un universitaire pour se rendre compte de l'horreur que c'est le travail en général et en usine et en particulier, quoi, tu vois. Donc tous ces trucs là faut quand même se rappeler que c'est des petits bourgeois. Donc quand tu vis dans ta petite bulle, tu sais, de privilégiés, que tu fasses même pas attention, que tu enjambes les sans-abri, que tu enjambes les sans-papiers, que tu enjambes tous les gens qui, eux, peuvent pas se permettre comme ça de passer leur temps à se branler, quoi, tu vois, effectivement, c'est pas étonnant, ils peuvent regarder ailleurs.
Tous les militants de la gauche prolétarienne n'étaient pas des prolétaires.
Ah oui, il paraît.
Alors, je continue. Donc, ce refus de ce qui marche bien pour s'accrocher opiniâtrement à ce qui marche mal est caractéristique du militantisme, il me semble. Oui, et je trouve, à cette époque, dans la pratique militante, un terrain où investir mes problèmes. Mais cela se faisait de façon marginale, un pied dedans et un pied dehors, et à ce moment-là, je perds totalement le contact avec le côté affectif. Pendant un an et demi, j'ai des rapports. Mais mon intérêt est ailleurs, dans les discussions, les lectures, les réunions, les meetings.
Alors là, tu vois, ça aussi c'est important par rapport à la critique du militantisme par des gens comme ça. C'est que tu pourrais pas... il faudrait choisir. C'est-à-dire que un militant, et ça il y a des tas d'autres... Il n'y a pas que dans Sexpol, hein. Il y a beaucoup de gens qui se figurent ça. Quand tu es militant tout le temps. Et tu dois choisir... Oui, je ne vais pas dire le contraire. J'aime bien les discussions. J'aime beaucoup les discussions en général, qui ne tournent pas forcément autour du sexe, effectivement. Mais en effet, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire toutes sortes de choses dans ta vie. Il y a cette espèce de fantasme de l'être global qui revient beaucoup aussi chez ces gens-là. Comme quoi, effectivement, grâce à des gens comme Reich en particulier, tu pourrais devenir, ou même ce que disait Janoff sur la normalité, tu pourrais devenir quelqu'un qui est l'incarnation de la perfection, qui a une vision du monde complète, globale, et qui a une espèce d'unité d'intérêt, de comportement. Il n'y a pas à s'en faire pour ça, mais c'est vrai que... Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est organisé, je veux dire, c'est spontané. Il y a des moments pour toutes sortes de choses, tu vois. Et bien sûr que le temps que tu passes à militer, pas du temps que tu passes à baiser, ça, les journées n'étant pas extensibles à l'infini, bien sûr que tu en retires, mais non plus, comme il avait apparemment remarqué, on ne peut pas non plus baiser toute jour et nuit sans arrêt. Donc tu peux quand même diversifier, on va dire, tes activités. Je ne vois pas pourquoi. Parce que tu t'intéresses en effet aux injustices, par exemple, ça voudrait dire que tu serais tout le temps en train de pleurer dans la soupe, tu vois. Je veux dire, enfin, voilà. Ouais. Oui.
Donc le taux des pratiques sexuelles dès lors que tu milites baisse vertigineusement.
Ça baisse, évidemment.
Tout à fait. Qualitativement, il n'y a plus rien, s'il y a encore un peu de quantitatif. Il n'y a même plus de plaisir physique et dans le même temps, j'en souffre, je m'en rends compte et je le fuis. Ce sera pour plus tard. Dans mon trip, il y a la promesse du salut et d'un salut qui ne viendrait pas de mon propre effort.
Ah oui, ça c'est cette idée que effectivement, soit tu agis sur toi, soit tu essayes d'agir sur l'extérieur. Mais je ne sais pas pour quelle raison à cette époque, enfin, parce que je ne vais pas justement lui faire un diagnostic, mais incriminer le fait de s'intéresser à son environnement comme raison au fait qu'il n'arrive plus à... Enfin, qu'il est devenu un peu peine à jouir, quoi, je veux dire. Ouais. Je trouve que c'est un peu abusé. Si tu veux, tu peux tout à fait faire les deux. C'est pas... Il aurait pu aussi accuser... Ouais, depuis que j'aime la bouffe, j'arrive plus à avoir du plaisir à baiser. N'importe qui lui dirait « Je vois pas le rapport. » Enfin, tu pourrais continuer à bouffer et aimer baiser aussi. Pourquoi pas? Mais là, c'est comme si... En effet, le militantisme était un état d'esprit, comme ils le disent à plusieurs reprises, qui serait masochiste. Il faut être masochiste pour se sentir touché, concerné par les injustices qui t'entourent. Oui.
Il y a un jugement comme ça du
monde. Mais qui est dit directement, d'ailleurs.
De ce point de vue-là, je crois pouvoir dire que je suis allé beaucoup plus loin, sinon beaucoup plus bas, dans la mesure où j'ai théorisé le problème en formulant l'auto-coercition sexuelle et affective comme condition sine qua non d'un militantisme politique agressif. Je disais alors que la sexualité satisfaisante entraînait l'assoupissement révolutionnaire, embourgeoisait et diminuait d'autant la combativité.
Il n'a pas besoin de la sexualité pour s'embourgeoiser, il est déjà bourgeois. C'est déjà fait, t'as pas be- il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non mais c'est aussi un diagnostic qui est un peu sujet à caution. Il se dit quand t'as l'embourgeoisement, c'est bourgeois qui... Puis en plus il a l'air vraiment bourgeois jusqu'au trognon. Ces bourgeois qui ont peur de s'embourgeoiser, moi ça me fait un peu rire quoi. Enfin...
Donc il disait ça, donc il disait ça, mais voilà, l'expérience prouve la validité du contraire. J'ai été et suis encore sexuellement malade entre guillemets de m'être contraint à n'être qu'un pur esprit, de repousser consciemment la sexualité jusqu'à devenir impuissant.
Mais personne ne lui demandait ça. Enfin, tu vois, je veux dire, personne ne lui demandait ça. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Mais à la limite, c'est qu'il s'interroge sur les raisons qui font qu'il ne peut pas faire les deux. Quoi. Je veux dire, mais incriminer le militantisme et faire un diagnostic global, parce que c'est quand même ce qui ressort de ce qu'il dit. Que tous les militants seraient comme lui, des peines à jouir. C'est du moment que tu milites.
Là, c'est le rédacteur qui parle et l'interviewé répond. Pour ma part, je sais qu'une fois que j'avais eu des rapports avec une femme, j'aspirais qu'à la voir partir. Je culpabilisais mon propre plaisir en prenant toujours à la souffrance des autres. En pensant toujours à la souffrance des autres par rapport à des cas concrets, mais surtout idéalisés.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là, idéaliser ? Il pense à des cas concrets, parce que si je comprends bien ce qu'il a voulu dire, il n'est pas toujours super clair, mais pour repousser ses envies sexuelles, évidemment, si par exemple, pendant qu'il, ça devait empêcher l'éjaculation précoce, si il pensait à la fin dans le monde pendant qu'il baisait, c'est, ça je suppose bien. Mais qu'est-ce qu'il appelle idéaliser ? Il veut dire que c'était quelque chose qu'il exagérait, dans quoi il voyait un truc horrible qui n'était pas aussi horrible que ça. Ou qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Idéaliser quoi ? C'est bizarre, je trouve. Mm-hmm. C'est pas très clair. Enfin bon, continue.
Venons-en à ta transition vers la bioénergétique. Tu es en formation pour être animateur à Tribu. Comment y es-tu arrivé ? Après la communauté, donc, j'ai connu des gens qui avaient suivi des stages de bio. Je traversais à l'époque une période d'individualisme. Il faut dire, d'un point de vue chronologique, que je n'étais plus alors étudiant et je devais chercher un boulot.
Oula.
Cela m'a amené à me couper des problèmes politiques.
C'est bizarre, ça aurait dû avoir l'effet contraire, mais bon.
Ah, ça, c'est dépend des personnes. Puis je subissais le dégoût lié à la période, le creux de la vague de l'après-mai 68. J'ai connu alors d'autres expériences, la drogue, l'herbe, la musique, etc. J'ai rencontré la bio par des gens que j'avais connus et j'ai lu quelques livres de Reich. Je me suis trouvé à un stade où je me suis posé pas mal de problèmes par rapport à moi. D'une part, je voulais recoller les morceaux. J'avais une personnalité émiettée, parcellisée, aussi bien au niveau affectif et mental qu'au niveau corporel. C'est une grande découverte chez moi, alors, la présence corporelle.
Ah oui, disons que c'est vrai que, malgré tout, pour pas quand même non plus trop le traîner dans la boue, le pauvre garçon, c'est que c'est vrai qu'il a l'air d'être parti loin. Enfin, je veux dire, s'il était avec un père colonel et qu'on le culpabilisait à propos de la sexualité en général et de la masturbation en particulier, c'est sûr qu'il devait, devoir avoir... Il avait des choses à surmonter pour pouvoir un peu s'épanouir. Mais tu vois, quand tu vois des trucs comme sur cette histoire de personnalité émiettée, je vois ça vraiment comme une sorte de désir de contrôle, de vouloir une cohérence là où t'es pas obligé d'en vouloir. Tu te dis, si on te dit, ben tout à l'heure, tu pensais qu'à baiser, et puis maintenant, t'es là à nous prendre le chou avec la politique, ben t'as pas à avoir à t'expliquer là-dessus. C'est pas émietter, c'est que effectivement, il y a des moments pour ci, des moments pour ça, et t'as pas à chercher une cohérence qui n'existe nulle part en réalité. Et il y a quelque chose de mystique, je trouve, dans ce désir de... J'entendais des gens dire, ah ben oui, mais il faut avoir une compréhension globale du monde. Mais c'est pas à échelle humaine, ça. Personne ne peut avoir une compréhension globale du monde. Quant à la cohérence parfaite de ton mental, c'est une idée aussi complètement mystique. Ça n'existe pas, sauf en tant que fantasme, quoi. Donc, on a l'impression qu'effectivement... tu sais pas très bien ce qui lui arrive, mais il culpabilise de plein de trucs. Il a une espèce de, enfin, l'impression qu'il me fait, c'est d'avoir un idéal complètement inatteignable de comment il devrait être, quoi. Comment devrait être l'amour aussi. Qu'il va se faire toute une histoire sous prétexte que des fois, après avoir baisé, ben, finalement, la fille, elle lui plaît pas tant que ça, et que des fois, il avait pas envie de s'engager avec celle-ci ou avec celle-là, enfin bon. Et que, tu vois, je veux dire, je trouve qu'il se demande beaucoup, quoi. Et je sais pas si la bio-énergie a pu l'aider pour souffler un peu, quoi, mais je sais pas exactement ce qui peut aider dans ces cas-là. Moi, je sais que je suis pas la même que quand j'avais 15 ans, mais c'est aussi les expériences, toutes sortes de choses qui font que tu vois les choses autrement. Et que les choses, des rencontres, des choses comme ça. Mais si jamais tu veux quelque chose d'inatteignable, comme l'idée de pas être, d'être un individu complet, qui est un peu exemplaire. Enfin, ça te donne pas un peu cette impression qu'il a une espèce d'idéal comme ça, inatteignable, d'être exemplaire, d'être un individu parfait, quelque chose comme ça.
C'est un peu peut-être la mode aussi à l'époque de vouloir se perfectionner, devenir parfait, parfaitement.
Alors là, j'ai entendu dire par rapport au milieu de l'édition que s'il y a des bouquins qui se vendent comme des petits pains, encore maintenant, c'est tout ce qui est coaching.
Ah oui, oui.
Tout ce qui est perfectionnement de soi.
Oui, ça continue encore.
Mais à fond, la caisse, il paraît que maintenant, en plus, s'il y a des gens qui ont plus de gens ont un meilleur pouvoir d'achat, en tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien. Pas seulement les bouquins, mais aussi même les séances de coaching pour se perfectionner.
D'accord.
Le yoga, tout ce qui est les trucs un peu le développement personnel, le fait de s'améliorer.
Là encore, quelque chose qui dépolitise et qui individualise.
C'est-à-dire que moi, je verrais pas d'inconvénient à ce que quelqu'un fasse les deux. Mais visiblement, pour moi, c'est pas un problème que quelqu'un fasse du yoga et tout, et qu'il soit militant.
C'est sûr, oui.
C'est un problème pour les gens qui font du yoga que tu sois militant. Je me suis fait moquer par des gens comme ça. Parce que, je vais pas, tu y arriveras pas, alors que le développement personnel, ça au moins c'est réaliste. Moi je vais devenir une meilleure personne. Et en plus, comme le gars d'ailleurs, quand je serai une meilleure personne, je deviendrai un militant super efficace. On attend encore le militant super efficace et même le super coup au plumard, parce que je suis pas sûre qu'en réalité, il y ait vraiment une telle efficacité. Dans tout ce qui est livre ou stage de développement personnel, j'ai l'impression que c'est un peu de l'arnaque, mais peut-être que je me trompe. Je demande qu'à ce qu'on me démontre le contraire. Voilà.
Alors, comment il en est arrivé à aller vers la bioénergétique? Deuxième motivation, refuser la survie, c'est-à-dire avoir une vie limitée au rythme de la consommation.
C'est bien, moi, on a fait même plusieurs débats avec des projections de films dont le pitch était « Métro, boulot, dodo, non, c'est pas ça la vie ».
Ouais.
Je dis ça plus simplement. Là-dessus, je suis assez d'accord. Si jamais tout ce que tu as dans la vie, c'est d'acheter des trucs au supermarché, je trouve ça tout à fait dommage, mais j'ai pas attendu après Reich et après la bioénergie pour avoir cette réflexion, mais bon.
Mais enfin, la oui, c'est... Bon, il y aurait vraiment à débattre assez longtemps là-dessus, parce que moi, pour moi, la survie, c'est pas justement limité au supermarché. La survie, c'est peut-être plus large que ça.
Bah, mais... tu as raison, mais c'est vrai que même si c'est un des... Enfin, on pourra revenir sur cette question, mais finalement, ce mot-là est assez ambigu, parce que sur la planète, et même ici en France, il y a des gens qui sont vraiment dans la survie. Exactement. Leur problème, c'est pas « Ah, j'en ai marre de trop consommer ». Leur problème, c'est de pas avoir... C'est de devoir racler la poubelle pour voir s'il reste des grains de riz dedans, tu vois. Non, mais j'exagère à peine. Je veux dire, les problèmes de se dire « Ah, faut que je limite ma consommation », c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vivent qu'avec le RSA et dont le problème ne se pose pas du tout dans ces termes-là. La survie, c'est pas ça.
Alors en plus,
tu vois ce que je veux dire ?
En fait, ce qu'ils appellent une vie limitée au rythme de la consommation, si on en repousse les limites, est-ce que ça va pas aller vers plus de consommation aussi, en fait ?
Comment ça ?
Puisque on est dans un système de toute façon marchand et capitaliste. Mm-hmm. Si tu veux mieux vivre plutôt que survivre, tu vas quand même rester dans la consommation.
Bah, de toute manière, il y a la consommation. Dit comme ça, c'est un peu lapidaire. J'avais un copain qui écrit des bouquins sur lui, qui travaillait en usine. Il est maintenant à la retraite, mais il travaillait en usine. Et tout le monde trouvait ça bizarre qu'il ait fait ça, quoi, d'aller en usine, parce que tous les autres essayaient de faire des petits boulots pour pas trop bosser, etc. Mais le truc, c'était qu'il avait peur de la précarité, en réalité. Mais il disait, puisque de toute façon, je bosse, autant consommer pour me consoler. Mais qu'est-ce qu'il consommait ? C'était des BD, puisqu'il était très BD, de la musique, des concerts, tu vois, éventuellement des voyages, des choses comme ça. Et c'est de la consommation.
Ben voilà.
Et, c'est pas gratuit tout ça. Mais donc, c'est un peu vague de parler de la consommation. Il se payait pas seulement des robots mixeurs. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un peu vague. Je trouve même simplement avoir un appart décent. Tu te dis, c'est de la consommation. Mais c'est pas illégitime. Même, je dis, il y a des gens qui n'ont pas du tout ce problème de consommation. Ni surconsommation, ni consommation, puisqu'ils vont bouffer au resto du cœur, ils habitent un taudis quand ils ont un appartement. Enfin, bon, tu vois, il faut quand même se rappeler. Tu vois, le fait. On voit bien que c'est un bourgeois, si tu veux. Oui, pour cette fois, ça ira. On voit bien que c'est un bourgeois, le mec, parce qu'il n'a pas idée qu'il puisse y avoir des gens dont le problème n'est pas l'excès de consommation. Voilà.
Exactement. Eh bien.
Voilà,
ben c'est. On termine l'émission et on se dit. Alors, pas la semaine prochaine, parce que je ne serai pas à Paris la semaine prochaine, mais la semaine suivante, peut-être.
Ok.
Et nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
African styles, it's all over now. African styles, African styles. African bring love to the world. African bring joy to the world. African bring peace to the world. Then why not why we have the worst in the world? African bring love to the world. African bring peace to the world. African bring joy to the world. That's why Jah make with one in the world. African give them the joy with the naya bingy sound. When the drummer beat, everybody gather round. We not speak the same language, but we make the same sound. Jah Rasta Warren and the Jones. Africa is the place I wanna be. Africa's a nice Africa, yes, so free, yes. They say a lot of things could have never been. Jah Rasta Warren, I said I soul free. We've gone through, yes, it's all over now. African styles are taking over now. The French Caribbean straight to Jamaica. African styles, we've gone through, yes, it's all over now. African styles are taking over now. The French Caribbean straight to Jamaica. African styles, we've
got the vibe.
Yes, we are
yes,
in.
Yes. We got the vibe, yes.
We got it.
All around the world, yes.
We got the vibe.
Martinique, Guadeloupe, you can tell.
We got the vibe.
In Jamaica, yes.
They got the vibe.
All Caribbean, oh, got the vibe.
It no matter if you're white or you're black, you're born free. And the things that when you do, I make people happy. If you have love for him or you have love for she. People rights, people glory and a partiality. Everything start from scratch, go and go and scratch berry. One man fuck up full basket, hey, don't fight it. It's a mind control set by C. Marley. So me watch the wicked and them are free.
We've gone through, yes, it's all over now. African styles are taking over now. The French Caribbean stretch to Jamaica. African styles. We've gone through, yes, it's all over now. African styles are taking over.
Back from the J.
D Red Records. Kill music.
Yes.
شدوني على السلك عدوني عالزاطلة بكاو لميمة هزوني رفيا باطلة في قالب غلطة حطوني في وردة تونس نعطيها وردة الحكومة تاخد كتلة عطيني الشمع عالسريع عم حبس ما نشدوش كان جاي بابا اسمه بوسبيع نحب نتوب ناحية الدروب من المكتوب الحبس ما نشوفوش كان جيب ولد سليم جيبوك يا رئيس يا محامي يا بوليس يا مستشار كيما بكيت وبابا بتمشى عارف فيه النار غير حومه قندها